Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, vous écoutez l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM, comme chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons avec une joie immense Madame Hélène Devinck. Madame, bonsoir.
Bonsoir, Lydia.
Vous venez nous présenter le livre « Sous nos regards, récit de la violence pornographique » édité aux éditions du Seuil. Madame Devinck, vous êtes journaliste, scénariste, autrice. Vous avez obtenu un master de sciences politiques. En 1994, vous avez participé à la création de la chaîne LCI. C'était une belle aventure, j'imagine.
Oui.
En 2009, vous avez rejoint la télévision iTélé et vous collaborez à Libération et au Monde et vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle L'impunité.
Exactement.
Ça, c'était en 2022.
Exactement, aux éditions du Seuil.
Et c'était pour dire que...
C'est un livre qui raconte ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol et comment on a été classé sans suite et comment on a été plusieurs dizaines à se battre pour que on tombe pas dans l'oubli, pour qu'on
bien
soit
sûr,
pas balayé par par l'indifférence qui nous a poursuivis pendant des dizaines
d'années. Oui, parce qu'en fait, un groupe de 10 femmes sont des menteuses. De toute façon, 10 femmes mentent toujours.
Mais là, on est 47.
En plus, 47.
Témoigné devant
super,
la justice.
47 menteuses.
Oui, ça fait beaucoup.
Le groupe, oui. Et vous avez aujourd'hui donc participé à la création aussi de ce livre, donc Sous nos regards, récit de la violence pornographique. C'est une œuvre collective.
Exactement. C'est un livre qu'on a fait avec une quinzaine d'autrices où on raconte l'histoire de 16 plaignantes dans deux grandes affaires qui sont l'affaire French Bukake et l'affaire Jackie et Michel. C'est deux affaires qui traitent de la pornocriminalité, c'est-à-dire de la cruauté qu'ont vécu les plaignantes. Et cette cruauté sert à l'industrie pornographique à fabriquer des orgasmes.
Oui, en effet. Et vous êtes donc, il y a 15 autrices. Si on peut juste, parce qu'on ne peut pas citer les 15, malheureusement.
Ah bah si, on peut citer les 15.
Ah, bah alors citons les 15.
Excellentes.
Ah oui,
donc, il y a Marine Bachelot Nguyen, il y a Béatrice Bienville, il y a Adélaïde Bon, Nadège Catlineau, Agathe Charnay, Pauline Delabroix-Allard, Ixelles Delaporte, Diaty Diallo, Karima Elkaraz, Dali Farah, Carole Fives, Alice Géraud, Myriam Leroy et Agnès Vanhuvong. Ça, c'est celles qui ont écrit, qui ont fait des portraits, qui ont écrit chacune avec son style, son univers. Il y en a qui sont dramaturges, il y en a qui font plutôt du rap, il y en a qui sont plutôt journalistes, qui font du journalisme littéraire comme moi, il y en a qui sont romancières. Et chacune a mis sa plume au service d'une des plaignantes dans ces deux affaires.
Mais elles ont été choisies comment ? Comment elles ont... Qui a décidé ? Elles ont travaillé ?
Au tout début, c'est une rencontre entre Adélaïde Bon et moi-même, c'est-à-dire qu'on travaillait toutes les deux sur ces affaires sans se connaître et sans le savoir. Et puis on s'est rencontrés, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est quelque chose et ce livre qui vient de sortir. Et on a décidé assez vite que on allait faire ça avec des autrices dont on aimait le travail. Et puis après, on s'est cooptées les unes les autres. Et voilà.
Il y a deux autres personnes. Il y a Christelle Tarot et Lorraine de Fourchère, c'est ça ?
Lorraine de Fourchère.
De Fourchère, pardon. Et historienne. Et quel a été leur rôle dans le livre ?
Alors, Christelle Tarot est historienne et elle est historienne spécialisée dans la prostitution coloniale, en tout cas au début. C'est une historienne féministe. Et donc, elle a fait pour ce livre la préface qui raconte l'industrie pornographique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la nouvelle pornographie, si le terme est à propos. Et c'est une préface extrêmement brillante. Et Lorraine de Fouché est journaliste, elle travaille au journal Le Monde, et elle avait fait, il y a quelques années, des articles sur l'affaire French Bukkake qui ont été un tournant dans ces affaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a apporté un éclairage là-dessus qui a fait connaître l'histoire au grand public. Même s'il y avait déjà eu aussi un travail extrêmement sérieux et important, notamment de Mediapart là-dessus.
Oui. D'ailleurs, il y a une émission qui a reçu aussi des plaignantes, je crois. Aussi,
des plaignantes qui témoignent dans ce livre. Ouais,
ouais. En fait, c'est ces femmes qu'on n'entend jamais, que tout le monde regarde, mais que personne ne veut ou ne peut voir. C'est toujours un peu délicat. Donc, plusieurs jeunes filles accusent des hommes de les avoir manipulées, violées, puis envoyées sur les tournages de porno amateurs entre 2013 et 2020. Des dizaines de victimes de l'industrie pornographique ont déposé plainte et elles se sont constituées parties civiles.
Alors, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui fait un peu mal à entendre, c'est cette histoire de porno amateur.
Oui.
Parce que le porno amateur, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui nous écoutent, n'importe qui se filme tout seul, enfin en train d'avoir une activité sexuelle, à 1, à 2, à 3 ou à 10, on s'en fiche, gratuitement. Oui. Et pour un usage privé. Et ça, personne n'a rien à redire là-dessus. Ouais. C'est ça, le porno amateur. Or, ce qu'on appelle porno amateur dans ces affaires, si on parle de French Bukkake ou de Jackie et Michel, c'est tout le contraire. C'est industriel. Il y a des producteurs qui gagnent de l'argent. C'est visible sur toutes les grandes plateformes comme YouPorn. Donc, ça n'a absolument rien d'amateur. La seule chose, on appelle ça porno amateur, parce que les femmes qui sont filmées, d'abord, elles sont très difficiles à recruter, parce qu'il faut des femmes qui sont prêtes à aller pourrir leur vie là-dedans pour quelques centaines d'euros, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on les trompe et qu'il y a toute cette affaire très compliquée, très sophistiquée pour aller les recruter. Mais sinon, personne n'est amateur dans cette histoire.
En fait, ce qu'on entend par amateur, mais ça, on en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des actrices, des acteurs qui font, dont c'est leur métier de faire de pornographie. Donc, c'est incroyable, c'est que ces jeunes filles ne sont pas, elles n'ont pas décidé de faire du porno. C'est arrivé dans leur vie d'une manière incroyable parce qu'elles ont été castées, on va dire, elles ont rencontré quelqu'un qui leur a proposé de faire ça un jour parce qu'elles étaient dans un état ou dans une situation précaire, c'est ça.
Alors, elles n'ont pas été castées, elles ont été trompées.
Oui, elles ont été trompées.
Si on prend l'affaire French Bukkake, elles ont à peu près toutes la même histoire, c'est-à-dire qu'elles sont majeures ou très jeunes, tout juste majeures. Il n'y a pas de mineurs, c'est important, il n'y a pas de mineurs dans l'histoire. Oui. C'est important parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de mineurs, que les lois qui protègent les mineurs, sont suffisamment puissantes pour empêcher ces producteurs-là, en tout cas, de les maltraiter. Donc là, c'est des femmes jeunes, majeures, qui sont souvent dans une mauvaise passe, dans une précarité financière, affective, et quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, victimes de violences sexuelles déjà avant.
Déjà l'enfance, oui.
Donc avec une vulnérabilité particulière. Et elles sont contactées sur Facebook par une femme, Axel Vercoutre, qui est un faux profil, qui en fait est un homme, et qui pendant des semaines, des mois quelquefois, va leur parler d'elle, se faire passer pour la meilleure amie, et puis finit par dire « bah moi je fais de l'escorting », parce qu'on ne dit jamais de la prostitution, tous les mots sont faux, c'est comme amateur, et tu vas voir, c'est comme quand tu couches avec un mec pour la première fois, sauf que là, c'est payé. Et puis les clients, ils sont toujours beaux et sympathiques. Et puis ça rapporte, et puis c'est de l'argent facile. Et puis ben voilà, qui raconte un mythe, qui raconte une légende pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment, elle cède une première fois. Et c'est cette femme qui n'est pas une femme, qui s'appelle Julien Dossi, en fait, qui les viole. Et ce qu'on appelle le viol d'abattage, une fois qu'elles ont été violées, il les balance à ses producteurs, Pascal Oulitro notamment, puisqu'on appelle Pascal OP, et qui leur dit, mais là, c'est, on va tourner pour une poignée, 5-6 libertins canadiens qui vont recevoir les images. Et non seulement elles ne savent pas ce qui va leur arriver, et ce qui leur arrive est atroce, et ensuite, elles se rendent compte que c'est partout autour d'elles, sur toutes les plateformes porno, elles sont piégées et elles n'ont aucun droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'elles sont piégées et encore aujourd'hui, les images reviennent.
Oui, et puis on leur fait du chantage pour supprimer ces images.
Et on ne les supprime jamais. Aujourd'hui, elles tournent encore.
Absolument. Et donc en 2023, il y a 17 hommes qui ont été envoyés devant la cour criminelle pour donc viol en réunion. Et donc le procès va avoir lieu dans quelques...
Alors il y a plusieurs incriminations, il y a traite d'êtres humains, il y a viol, mais une partie des avocates de la défense des parties civiles, donc des femmes qui sont victimes, veulent faire reconnaître aussi actes de torture et barbarie et les circonstances aggravantes de racisme.
Le racisme.
Parce que c'est extrêmement raciste. Hein,
c'est-à-dire que oui, il y a une jeune fille asiatique, métisse asiatique, qui explique justement qu'au cours des séances, on va dire, elle a été traitée de tous les noms. Enfin, c'est épouvantable. Enfin,
et c'est raciste dans la pratique, mais aussi dans les recherches, la pornographie. Oui. C'est-à-dire que défoncer la beurette, voilà, c'était le titre d'une vidéo d'une des plaignantes. Alors, on peut difficilement faire plus raciste. Et donc, si pour l'instant l'affaire est devant la Cour de cassation, si la Cour de cassation retient les circonstances aggravantes de racisme et les actes de torture et barbarie, l'affaire sera plus jugée devant une cour criminelle départementale, mais devant une cour d'assises. Et pour l'instant, on attend la décision de la Cour de cassation.
Oui. Est-ce qu'on peut considérer que l'industrie pornographique a changé entre les années 80 et les années 2000, avec l'avènement de l'Internet, effectivement. Aujourd'hui, ce sexe, alors on parle d'amateurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les scénarios, les vidéos sont d'une violence incroyable. Est-ce qu'au fur et à mesure, la violence est arrivée plus aujourd'hui que dans les années 80, par exemple?
Alors, je vais me référer à la préface de Christelle Tarot, donc, qui est une historienne qui a travaillé là-dessus. En fait, la pornographie arrive avec toutes les évolutions technologiques. Quand on a inventé l'imprimerie, on a commencé à avoir des récits pornographiques. Quand on a inventé le cinéma, on a commencé à avoir un cinéma pornographique. Quand on a inventé la photo, on a eu des photos pornographiques. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, la pornographie est sur le téléphone. Donc, elle est accessible à tous, tout le temps et partout. Et depuis les années 2010... avec l'apparition des grandes plateformes gratuites, c'est plus du cinéma, comme on parlait du cinéma pornographique, c'est-à-dire qu'il y avait au moins une esquisse de scénario, de mise en condition, une petite histoire qui était racontée, même si elle était vraiment très, très
assez
sommaire.
Stupide. Oui.
Mais maintenant, il n'y a plus ça du tout. Maintenant, c'est des scènes ultra violentes, ultra courtes. Et qui sont ce qu'on appelle cette nouvelle pornographie, c'est-à-dire à la fois très addictive et très prescriptive, et qui montre quelque chose qui est de la violence
pure et simple,
de la haine des femmes. Je crois que il y a des associations qui ont regardé 90% de la pornographie proposée aujourd'hui contient une violence qui est légalement punissable. Donc c'est plus une pornographie, si j'ai tenté qu'elle ait existé, mais on va dire qui des pratiques qui pourraient être celles de
chacun,
de tout un chacun.
Oui.
Là, c'est vraiment des pratiques extrêmes avec
des situations,
une violence énorme.
Et ça crée effectivement les clients voyeuristes. L'excitation vient du fait de voir des ébats sexuels pris sur le vif, des images clandestines presque interdites. En fait, il y a cette notion de faire quelque chose d'interdit. C'est ça qui est fou.
La pornographie, c'est toujours abrité derrière la transgression. C'est-à-dire que l'idée que le sexe est transgressif, quelle que soit la pratique, ça permet de se dire, alors on transgresse et tous ceux qui vont critiquer vont être puritains, antisexes, moralistes, etc. Or, là, ce qu'on voit sur ces images et dans ces affaires French Bukkake ou Jacquet et Michel, c'est pas du sexe. C'est pas du sexe.
C'est de la barbarie.
C'est de la haine des femmes, c'est de la violence faite aux femmes. Et en général, les hommes qui font ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle les acteurs, mais tous ceux qui circulent autour sont les producteurs, les caméramans ou les acteurs, tous pénètrent les femmes. Ils ont souvent des érections qui sont obtenues chimiquement. Enfin, tout est... rien ne ressemble à du sexe ou à quelque chose de respectueux et de réciproque.
Oui, ou d'échange, etc.
Rien.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Madame Gobac, vous avez rencontré donc deux plaignantes. Racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré ces deux jeunes filles pour écrire La carcasse de poulet. C'est ça le titre de votre texte.
Alors, ça s'appelle La carcasse de poulet parce qu'une des deux, Pauline, quand elle a été amenée dans la maison de Pascal Oppé, c'est-à-dire elle ne savait pas où elle était, elle a fait des heures de voiture avec des hommes dans la voiture et elle est arrivée dans un pavillon, dans une petite ville, un petit village de province où il y avait des chiens. Et elle dit que les chiens ont été plus gentils avec elle que les hommes qui étaient là. Et le soir, on lui a donné à manger la carcasse de poulet qui était destinée aux chiens. C'est pour ça que voilà, le texte a ce titre-là. Ce que je peux dire sur Pauline et Noélie, parce que donc c'est les deux jeunes femmes sur lesquelles avec lesquelles j'ai écrit ce texte et pour qui j'ai écrit ce texte, c'est des rencontres qui sont extrêmement importantes dans la vie parce que c'est bête à dire, hein, je ne sais pas comment dire, je les aime et j'admire leur force, leur courage, leur
détermination,
leur volonté de vivre et de s'en sortir. Et j'ai mal pour elles de ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'il leur est arrivé quelque chose qui n'aurait jamais dû leur arriver et elles se sont retrouvées derrière sans aucune protection. Comme toutes les femmes de ce livre.
Il y a du livre, bien sûr.
Et quand je dis sans aucune protection, c'est-à-dire quand les images ont commencé à circuler, toutes elles racontent la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont pensé ou essayé de se suicider, presque toutes et certaines l'ont fait. Il y en a beaucoup qui ne sont plus là pour raconter leur histoire parce qu'elles en sont mortes.
Bien sûr.
C'est une industrie qui tue. Elles ont essayer de survivre socialement avec le danger permanent, et c'est un danger qui continue, quand elles ont un nouveau travail, quand elles rencontrent un homme, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'on lui dit pas ? Est-ce qu'il va le découvrir tout seul ?
Les enfants.
Les enfants, et aussi les hommes qui les poursuivent, c'est-à-dire qui pensent que, puisqu'ils les ont vus se faire maltraiter dans des scènes pornographiques...
Qu'elles ont bien voulu, quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on écoute le texte qu'a écrit Karima Alcaraz avec une des plaignantes, qu'on appelle Y dans ce texte, et qui parle de ça, justement.
Bien, on va écouter. Armand va nous faire écouter.
Y avec Karima Alcaraz. Nous avons toutes grandi avec ces lignes rouges imaginaires. Ces lignes qui séparent les filles fréquentables et celles qui ne le seraient pas. Ces lignes qui séparent celles qu'on protège et celles qu'on maltraite. Ces lignes qui séparent celles qui sortent du chemin, comme on dit en arabe, et celles qui mériteraient la bénédiction de leurs parents. Celles qui sont naïves et celles qui surveillent leurs arrières. Celles qui se respectent et celles qui n'ont aucune pudeur. Celles qu'on agresse et celles qu'on admire. Ces lignes rouges détruisent les corps et les esprits. Ces lignes rouges nourrissent la culture du viol. Ces lignes rouges saccagent la vie des jeunes filles, de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi. Ces lignes rouges ne protègent personne, si ce n'est les prédateurs.
Et oui, tout est dit en fait.
Mais c'est le vieux, très très vieil outil du patriarcat, qu'on appelle le double standard, c'est-à-dire séparer les femmes entre celles qui sont vertueuses et celles qui sont des putes, celles qu'on doit respecter, celles qu'on a le droit de baiser comme on veut. C'est très ancien, très efficace. On croyait que la libération sexuelle avait effacé cette vieille scission. Et en fait, on se rend compte que pas du tout.
Mais c'est fou parce que c'est toujours le même schéma. C'est entre la Vierge et la putain. C'est-à-dire que c'est quand même fou qu'on ne sorte pas de ça. C'est quand même... Moi, je suis complètement effaré. Enfin, mais en plus, Noélie, elle a eu un parcours scolaire brillant parce qu'elle elle a fait du conservatoire, elle faisait du piano, elle faisait du judo. Enfin, ces jeunes filles, au départ, à l'âge de l'adolescence, elles ont une vie classique. C'est après, souvent, avec la séparation des parents, qui là devient un traumatisme et souvent les emmène vers une vie qui est...
Alors, elles n'ont pas toutes une vie classique. Il y a de tout. Elles sont différentes, elles réagissent différemment. Il y a quand même beaucoup... de femmes qui ont été agressées dans l'enfance, beaucoup d'inceste, ce qui les rend fragiles et vulnérables. Et ça, c'est un truc que les prédateurs savent repérer.
Bien sûr, qui est démontré.
C'est-à-dire, quand on a été victime une fois, on peut être victime encore plus, mais pas toutes. Et ce que ça dit, l'histoire de Noélie, c'est-à-dire que souvent, on a l'impression que c'est des femmes, un lumpen prolétariat qui seraient destinées à souffrir, ce qui déjà est très classiste et absurde. Mais c'est une façon d'éloigner le malheur de nous, de se dire, ça ne peut pas nous arriver.
Parce qu'on sait.
Parce qu'on serait d'une certaine façon supérieure. Oui. Et c'est une très très mauvaise façon de penser. Évidemment. C'est une erreur de penser ça.
Bien sûr. La preuve, c'est que Gisèle Pélicot, qui s'est mariée, qui est avec un homme qu'elle a dû aimer, qui a dû l'aimer, et qui quelques années après se retrouve dans le...
Alors Gisèle Pélicot, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est la bonne victime.
Oui, c'est ça.
Par son âge. Classe moyenne, mariée pendant 60 ans au même homme. Et puis surtout, elle ne peut pas parler puisqu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ouais. Et on a les vidéos. Donc on sait pour elle, on ne peut pas mettre en doute sa parole. Et cette bonne victime, qui est l'inverse des femmes qui sont dans ces affaires, Jackie et Michel et French Bukkake, qui elles sont jeunes, qui vont être au procès, être très 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 attaquées par la défense. Par exemple, les avocats de Jackie et Michel sont extrêmement virulents, extrêmement procéduriers. Ils envoient des mots d'avocat partout, tout le temps, etc. Donc elles savent qu'elles vont avoir un procès très difficile. Néanmoins, le courage dont a fait preuve Gisèle Pélicot.
C'est extraordinaire.
Mais ça les aide aussi.
Oui.
Et oui. Peut-être qu'on peut écouter ce qu'elle dit.
On va écouter, effectivement, cette dame courageuse.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Je trouve ça très simple et très beau ce qu'elle dit. Et les plaignantes qu'on a rencontrées dans ce livre, elles ont envie de témoigner à visage découvert. Elles ont envie de dire leur nom, elles ont envie de dire qu'elles sont pour rien dans ce qui leur est arrivé. Simplement, si elles font ça, immédiatement, les vidéos, les gens, tout le monde va aller les voir, va voir leur viol. Et donc, la société fait que c'est impossible pour elles, pour l'instant. Mais elles y réfléchissent, elles se demandent si elles arrivent au procès. Elles rêveraient de faire comme Gisèle Pélicot, c'est un peu leur exemple, c'est-à-dire d'arriver visage découvert devant la cour.
Oui, mais la différence aussi, c'est que Gisèle Pélicot, elle est une victime, alors qu'elle, les gens ne veulent pas penser qu'elles sont des victimes. C'est ça, cette position de femme victime qu'elles n'arrivent pas à avoir, parce que quelque part, on dit que si une femme fait du porno, c'est parce qu'elle veut bien, qu'elle aime ça. Donc c'est ça qui est compliqué aussi pour elle. Il n'y a aucune raison qu'elle ait honte de ce qu'elles font, parce qu'elles sont victimes, en fait. Donc,
Mais c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des bonnes victimes, elles sont des mauvaises victimes.
C'est ça.
mais elles sont victimes quand même, et elles n'ont rien choisi de ce qui leur est arrivé. Elles ont essayé, pour beaucoup, et par exemple Noélie, dont je raconte l'histoire, presque tout de suite, elle a essayé de porter plainte. Elle a essayé d'aller voir des avocats, elle a essayé d'écrire, elle a écrit au procureur. Il y en a qui sont allés dans des commissariats. On a pris leurs plaintes sur des post-it. Et on leur a rayonné. Et Noélie, elle me racontait, elle a une avocate qui lui dit « Mais madame, vous avez signé un contrat, il faut lire avant de signer.
Ouais, » C'est fou.
Alors, on va parler du contrat.
Sororité, on va dire.
Ce à quoi elle a répondu, le contrat que j'ai signé, c'est une cession du droit à l'image pour 99 ans. Ça veut dire que quand je serai morte, il y aura encore des hommes pour se branler sur mon calvaire. Mais alors, on peut parler de ce contrat, mais elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se faire entendre, à être reconnues, justement, comme victimes. Et pourtant, les images de leur viol sont publiques. Il suffit de... On les voit, on tombe dessus, et plein d'hommes tombent dessus puisqu'elles sont reconnues, ce qui statistiquement est hallucinant. On se demande comment, il y a des millions et des millions de vidéos pornographiques qui circulent sur Internet, comment leurs voisins tombent sur elles et comment on reconnaît leur visage, qui n'est quand même pas la préoccupation essentielle de ces images qui ne sont même pas centrées sur le corps, qui sont centrées sur des orifices. Mais donc il y a ce contrat qu'elles ont signé qui, d'une certaine façon, a paralysé leur plainte, à paralyser le fait qu'elles soient reconnues comme victimes. Or, ces contrats, ils n'ont absolument aucune valeur. D'une part, parce qu'on ne peut pas consentir à sa propre destruction.
C'est clair.
C'est-à-dire, c'est sur ce principe qu'on dit qu'on ne peut pas consentir à se tuer en duel, on ne peut pas consentir à faire du lancer de nain, même quand on est un nain et qu'on a envie d'en faire. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas consentir, et ce qu'elles ont subi, on ne peut pas consentir à des choses qui provoquent des déchirures, des sphincters,
des traumatismes
graves ou des humiliations
C'est comme faire un contrat en disant « oui, je vais mourir, vous pouvez me torturer quand vous voulez ».
Voilà, ça n'a pas de sens. Mais ça par ailleurs... ce contrat qui n'était pas une financiarisation de leur consentement, ce contrat c'était un baillon sur leur plainte. C'est-à-dire qu'après, elles ne pouvaient plus se plaindre parce qu'elles avaient
signé ce contrat.
Ouais. Et ce contrat...
D'où l'acceptation.
Même si,
donc elles ont accepté quelque part. C'est ça l'histoire.
Et c'est ça ce qu'on dit. Sauf
que c'est ce qu'on dit.
Aujourd'hui, par exemple, l'Assemblée est en train de discuter et à voter en première lecture une redéfinition pénale du viol qui introduit la notion de consentement, mais c'est un consentement libre, éclairé, révocable, ce qui n'est pas du tout ce qui leur a été proposé.
Alors, j'ai appris un mot, je suis novice, effectivement. Qu'est-ce que c'est que la bouca? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, peut-être?
Alors, c'est un boukake. C'est un terme qui est un peu japonisant. Et French boukake, c'était le nom du site... de Pascal Olitreau.
Oui.
Bukake, c'est censé être japonais. Ça consiste à mettre une femme seule devant des dizaines d'hommes qui souvent sont cagoulés pénis à l'air et qui la pénètrent et qui jouissent sur elle en filmant ça et en espérant avoir à la caméra l'image de détresse de la femme qui est seule face à un mur d'homme. C'est une expression brute de la domination et de la haine
domination.
Des femmes.
Et en fait, on se demande pourquoi ces hommes sont cagoulés, parce que est-ce qu'ils ont peur d'être connus ou ils ont peur de leur déviance? On peut se poser la question. Mais il y a aussi des mots pendant ces actes. Pardonnez-moi, mes chers auditeurs, mais les mots sont vider de couilles, vider la couille ou les couilles, serpillère à foutre, ou de bonne pour la décharge. Enfin, il y a quand même aussi un vocabulaire qui accompagne ces actes qui sont épouvantables. Enfin,
c'est censé qualifier des femmes.
Aligre FM 93.1.
Et on a mis en exergue une phrase de Toni Morrison qui est très belle, qui dit « Il y avait quelqu'un dans ce corps après
tout. » Il y avait quelqu'un dans ce corps, oui,
c'est ce qui semble oublier. Mais c'est ce que vous dites, c'est l'expression la plus pure de la misogynie, de la haine sexiste, c'est-à-dire de considérer que les femmes ne sont pas des êtres humains.
Sans oublier qu'il n'y a pas de précaution sanitaire dans ce genre de situation. Non. Donc elles ont souvent des affections diverses et variées. Et... Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut peut-être écouter encore un texte, éventuellement.
Eh bien, on peut écouter Adélaïde Bon, qui, c'est elle qui lit. C'est une,
c'est elle
une
qui
des
lit.
Autrices
qui lit,
de
absolument.
Ce livre. Et qui lit le texte qu'elle a écrit sur Mélanie.
Mélanie avec Adélaïde Bon. Je ne suis pas celle qu'ils décrivent dans la légende sous les vidéos des viols. Pas une blonde sexy totalement libre qui aime baiser, pas une bombe docile accro à une sexualité hors norme, ni une adolescente, un avion de chasse, une nymphomane, une fille facile, une femelle qui adore ça, encore moins une salope sans limite à la morale déviante. Je ne suis pas une poupée totalement soumise, ça. Ce sont leurs mots. De violence en violence, de l'enfance à l'âge adulte, j'ai été leur champ de bataille, leur poupée, leur pute. Trois mots pour la même chose. Je m'appelle Mélanie. Je suis partie civile dans le procès Jackie et Michel. Je porte plainte pour viol, avec circonstances aggravantes de torture, traite d'êtres humains, proxénétisme, enregistrement et diffusion d'images de viol. Trois vidéos, trois jours de tournage, trois jours de viol, du matin au soir. Ma vulve, mes lèvres, mes seins, ma gorge, ma peau. Soie et velours. Saccagé. Et la joie. Et l'avenir.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Toutes ces filles qui ont témoigné sont extraordinaires, en fait, parce qu'elles ont un regard sur tout ça que je dirais, j'allais dire que quelque part, elles sont éloignées, mais il y a aussi quelque chose qui est presque de l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je peux expliquer ça. C'est-à-dire qu'elles expliquent très bien ce qu'elles ont vécu, mais froidement, quelque part.
Alors, pas toutes, elles ne sont pas toutes au même niveau de réparation, on va dire.
Ouais,
il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se réparer et on ne sait pas si elles vont y arriver. Faut se méfier de l'espèce de on ne peut pas leur imposer de se remettre de ce qu'elles ont vécu. Elles font ce qu'elles peuvent. Certaines sont, comme vous le dites... combatives, même si c'est dur. Elles ont toutes traversé des profondes dépressions et certaines se sont relevées et trouvent dans le combat aussi une raison de vivre. Et d'autres y arrivent pas. Mais ça n'en fait pas...
Oui.
Ça les fait pas plus ou moins victimes.
Dans votre, les deux personnes que vous avez rencontrées, les jeunes femmes que vous avez rencontrées, elles disent à un moment donné que les images sont arrivées sur leur téléphone. C'est-à-dire que tout d'un coup, même des années après, elles reçoivent à nouveau ces vidéos.
Mais en fait, elles ne savaient pas que ça allait être mis en ligne et que tout d'un coup, tout leur environnement allait être bouffé par ce que j'appelle le virus pornographique.
Nouveau.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une maladie qui tuait leur vie sociale qui arrive peu de temps après les vidéos. Et c'est le début du cauchemar, c'est le début de l'enfer.
C'est le début du chantage.
Qui dure encore.
Oui, qui dure encore. C'est-à-dire qu'on leur demande de l'argent pour supprimer, faire disparaître les images. Et puis, quelquefois, elles payent, et les images ne disparaissent pas. Et puis, il y a les commissions entre les producteurs qui se partagent les filles. Et ça n'arrête pas, en fait. C'est sans pitonnel. C'est-à-dire, toute leur vie, elles auront ces images. C'est incroyable. Il y a le droit à l'image, donc elles pourraient quand même trouver une solution là-dessus. Mais apparemment, non.
Mais il y a beaucoup de faux arguments, c'est-à-dire on dit « ah oui, mais c'est international, ah oui, mais c'est pas, ces sites comme YouPorn n'ont pas, ils sont pas en France ». Donc en fait, si on voulait interdire, on interdirait. Et il n'y a pas d'autres...
Oui.
Là, c'est des images de torture.
Bien sûr.
Il n'y a aucune raison que ça puisse continuer à être visible. Et encore une fois, quelle est la finalité de ces images ? C'est de provoquer des émissions spermatiques.
Oui.
C'est-à-dire que c'est des images qui rentrent dans l'imaginaire de tout un chacun, de vous, de moi, pas seulement des hommes, et qu'on a un imaginaire qui est colonisé par ça, labouré par ces images de domination et de cruauté.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est que elles ont pas de choix, ces filles. Elles ont le choix où de continuer à se prostituer, c'est-à-dire qu'elles restent dans la prostitution, ou elles se battent, mais elles sont dans un monde où elles sont mésestimées, ou alors elles meurent, ou elles se tuent, ou elles se suicident.
Ça, c'est Noélie qui m'avait dit ça. C'est-à-dire quand elle a commencé à essayer d'être aidée par la justice, qu'elle a commencé à demander justice et qu'elle se faisait claquer la porte au nez partout. Elle me disait qu'elle trouvait nulle part une histoire qui ressemble à la sienne, qu'elle était enfermée dans une solitude atroce où il n'y avait même pas un récit quelque part auquel elle pouvait s'accrocher. Et elle a fini par trouver un récit d'une femme comme ça qui disait que voilà, il y avait ces trois options là et elle a résolument choisi de se battre, et tant pis si la société lui a tourné le dos, et elle se bat avec une force et une détermination qui force l'admiration.
Donc le parquet de Paris a ouvert une enquête. Et Noélie et Pauline, on se sont aperçus qu'elles étaient des dizaines de filles qui avaient vécu la même chose, parce qu'elles sont sorties de l'isolement, en fait, quelque part.
Aujourd'hui, il y a 42 parties civiles dans cette affaire French Bukkake.
Et les gendarmes ont vu les vidéos, les viols, les actes de barbarie. Les preuves étaient irréfutables. Les crimes étaient devant les yeux. Et aussi les agresseurs et aussi les victimes, parce qu'on voit les agresseurs aussi. Ça, c'est extraordinaire.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes ont saisi des rushs chez Pascal Oitro. Et sur les rushs, il y avait ces femmes qui montraient leur carte d'identité, donc ça permettait de les retrouver. Et puis, il y avait ce qui était intéressant, c'était tout ce qui était enlevé au montage. C'est-à-dire tout ce qui avait été filmé et qui était retiré. Et dans ce qui était retiré, il y avait on laissait des expressions de douleur, mais on enlevait les supplications, quand les femmes suppliaient que ça s'arrête.
Bien sûr.
Ce qui est quand même une preuve très très nette que leur consentement n'avait pas.
C'était de la torture, bien sûr.
Que c'était de la torture. On supprimait les débandaisons, parce que ça c'est pas joli à voir, paraît-il. On supprimait les indications trop précises ou du metteur en scène. Mmh. Et comme il y avait à la fois les hommes qui étaient là, la carte d'identité et le nom de la femme,
oui.
En tout cas de quelques-unes, c'est comme ça qu'on les a retrouvées.
Oui,
et certaines, comme c'est le cas de Pauline, ce que je raconte dans le texte, elle voulait plus en entendre parler. Et quand un jour un gendarme l'a appelée, elle sortait du boulot, c'était plusieurs années après, et elle me dit, elle s'est assise, elle a eu l'impression d'avoir les jambes coupées, et c'est la première fois qu'on lui a dit qu'elle avait été violée.
Oui.
Parce qu'elle vivait ça dans la honte.
Et aujourd'hui, elles veulent tout dire, elles veulent donner à juger ce que ces hommes ont fait, leur bestialité et leur manque total d'empathie. Mais est-ce qu'il y a des clients qui sont aussi au procès, qui seront au procès ?
Ce que vous appelez les clients, c'est les gens qui s'abonnaient.
Oui, les gens qui s'abonnaient.
Au site de Pascal Oppé, oui. Pour participer à des boucaquets. Oui, ils payaient pour ça.
Oui.
Ceux-là, ils ne sont pas poursuivis.
Ah oui ?
Non. Et bien, il y en a à peu près 500. C'est-à-dire que ça fait aussi penser à Mazan. Hein. C'est des hommes qui ont payé pour aller violer une femme.
Oui,
et
c'est
là,
ils n'ont pas.
Pour l'instant, ils ne sont pas cités.
Oui, mais c'est du viol quand même. Donc, ils devraient l'être, normalement.
Ils devraient l'être, mais enfin, il faut trouver 500, c'est beaucoup. Hein.
Oui. On écoute une autre jeune femme, enfin, un autre texte.
Oui, c'est le récit de Carole Fives qui a rencontré Amélie.
Amélie avec Carole Fives. Sur les vidéos, il m'appelle Amélie. Je hais ce prénom. Dès que quelqu'un m'appelle Amélie, je sais que c'est reparti. Un de ces salauds m'a reconnu et ne se gêne pas pour me le faire savoir. À chaque fois, ça va très vite. En quelques heures, en quelques jours, tous les collègues sont au courant. Elle fait du porno. C'est une actrice porno. Une salope. Une pute. Une qui aime la bite. Dès qu'ils savent, les hommes commencent leurs insinuations, leurs tentatives de drague, d'attouchement. Les femmes se détournent, prennent des mines dégoûtées. 12 ans que ça dure, 12 ans, 18 déménagements, autant de villes différentes, mais chaque fois tout recommence. Tout ça à cause de 2 vidéos qui tournent en boucle. Dès qu'elles sont supprimées d'un site, elles réapparaissent sur un autre. Mon corps à l'infini sur Internet. Visage et corps. J'avais 22 ans.
Alors l'histoire qu'elle raconte... Carole Fives, c'est qu'Amélie lui raconte qu'elle travaillait dans un Leroy Merlin, et un client veut rendre quelque chose qu'il a acheté, déballé, il n'a pas le ticket de caisse, donc il est un peu frustré parce qu'elle ne lui reprend pas sa marchandise, et elle dit, il change de regard, et je vois, quand son regard a changé, qu'il passe dans un autre registre, et que il va lui faire payer sa frustration en lui disant « j'ai vu ton truc sur Internet ». Et voilà. Et à partir de ce moment-là, souvent, elles sont souvent virées parce qu'on dit qu'elles font une mauvaise image à l'entreprise dans laquelle elles travaillent.
En plus.
Et voilà. Et donc, Amélie, ben, 18 déménagements en 12 ans. C'est de dire comment la société punit les victimes. Et c'est une injustice quand même.
Total.
Voilà.
J'espère que ça sera dit au procès, parce que vraiment, ça commence vraiment à être insupportable. Et elles disent aussi, le porno, c'est pas du cinéma. Nous ne faisons pas semblant ce que nous avons fait. Nous l'avons réellement vécu. Parce que ça aussi, les images, en fait, sont hors de la réalité. Les gens se disent, oh, ce sont des images. Mais ces filles ont subi des choses horribles, quoi. C'est incroyable.
Bah, ce qu'elles disent, elles sont plusieurs à le dire, c'est... Elles essayent de remettre le bon vocabulaire. Il y a des fautes dans le vocabulaire qui cachent des choses. C'est comme quand on dit boucaqué, on dit ou tournante. C'est pas des boucaqués, c'est des viols collectifs. Ouais, et il n'y a pas d'escorting, il y a de la prostitution. Et sur le mot actrice, elles disent mais les actrices, elles font semblant de mourir dans les films.
C'est ça.
Le sexe, il est simulé dans les films.
Exactement.
Nous, ce qu'on nous a fait, on nous l'a fait vraiment.
Vraiment.
Ouais. Et il y a pas de cinéma, il y a pas d'actrice.
Alors aujourd'hui, en tout cas, vos deux plaignantes, Noémie, par exemple, elle a repris des études. Noémie, elle a repris des études et elle va dans les écoles aussi pour faire de la prévention.
Noélie, elle a repris des études avec, et puis elle travaille maintenant avec l'angoisse permanente que ça ressorte, d'être connue, etc. Parce que tout peut s'écrouler, tous les efforts qu'elle fait peuvent s'écrouler si les images ressortent. Et Pauline, ça fait longtemps que je la connais maintenant. Au début, elle me disait « je voudrais avoir une petite vie tranquille. Je voudrais avoir le droit d'avoir une petite vie tranquille. » Elle a un homme, elle a un enfant, elle vit dans une ville de province. Et puis, peu avant la sortie du livre, quand on était en train de le boucler, elle me dit « mais non, en fait, je voudrais que tu changes ça. Je ne veux pas une petite vie tranquille. Je veux me battre pour que ça n'arrive pas à d'autres. Je veux aller dans des écoles, je veux parler aux jeunes filles, je veux les prévenir, je veux pas que ça recommence. »
Oui, c'est voilà. encore du courage, là.
Oui, c'est un grand courage.
Oui. Et Pauline dit « Je ne m'appelle pas victime, je ne suis pas seulement une rescapée de l'enfer. » Qu'est-ce que vous avez appris avec ces deux jeunes femmes ?
J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, je vous dis, je les aime. Donc ça, c'est, c'est quelque chose, et je pense que c'est réciproque. C'est-à-dire, c'est des vraies rencontres. Et j'ai appris ce que c'était le terrorisme. Parce que ce qu'elles vivent, c'est vraiment une forme de terrorisme dans la guerre contre les femmes. C'est un terrorisme masculiniste. C'est-à-dire, ce qui leur est arrivé... Moi, je ne peux pas dire que ça n'aurait jamais pu m'arriver. Je n'ai pas été dans les mêmes circonstances, ça je peux dire. Mais que ça n'aurait jamais pu m'arriver, je ne peux pas le dire. Et ce qui leur arrive est tellement dur et la société les juge tellement mal que ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à toutes les femmes. C'est un message qu'on nous adresse à toutes pour nous dire « tenez-vous à carreau ». Voilà. C'est d'une cruauté infinie.
C'est insupportable. Mmh. Insupportable. Et ça n'arrête pas en plus. C'est ça, on ne voit pas comment on pourra s'en sortir de ça. Il faut absolument que les choses changent parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Les femmes ont besoin de liberté et de respect aussi. Vraiment.
Je suis contente de vous entendre le dire avec autant de force et de conviction.
Vous savez, depuis que je fais cette émission, je suis... complètement révoltée de ces situations et je ne comprends pas. J'ai bien aimé la réaction, on parlait tout à l'heure d'un Grimbac qui disait « Messieurs, rangez vos queues !» quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça. Il faut les mettre sous le bras. Ça suffit maintenant. La question, c'est est-ce que la pornographie est en partie intégrante de la société ? Est-ce que c'est notre société, ça ? Ça donne le reflet de ce que nous sommes ? Pensez-vous ?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
À la fois, c'est un sale petit secret, mais c'est pas tellement secret, et c'est très sale, et c'est pas très petit. C'est-à-dire que c'est une industrie qui rapporte des milliards
beaucoup d'argent.
Chaque année, mondialement. Ça dit aussi l'importance de ce procès qui va avoir lieu. Ce livre le prépare d'une certaine façon, ce procès. C'est une occasion pour que la société se regarde en face. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on va croire, de quel côté on va être, comment on va les traiter, elles, pendant le procès. C'est une vraie question.
Oui, aussi, il y a cette question du consentement. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un sujet important. Le consentement, c'est... Parce que la pornographie véhicule un message où le consentement n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, mais le consentement est terriblement nécessaire.
La pornographie, c'est un monde où les femmes ne disent jamais non, où les hommes ne s'arrêtent jamais, et où il y a... Effectivement, quand elle dit non, ça veut dire oui. Et puis, elles aiment ça. C'est ce qu'on entend tout le temps. C'est oui, oui, encore, encore. Évidemment que c'est pas vrai. Et c'est une arme masculiniste.
Oui,
c'est une
absolument.
Façon,
c'est une façon
de
nous anéantir.
D'humilier, de détruire les femmes et de jouir de la destruction des femmes.
Oui, complètement. Là, il y a eu une enquête de l'INSEE qui indique que 25% des agressions sexuelles ont lieu sur les lieux de travail aussi.
Oui.
Et ça aussi... les jeunes filles adolescentes sont sexualisées beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un danger. Moi, j'étais étonnée du succès du film 50 nuances de Grey. Ça a été un moment... tout le monde était en parmesan devant ce film. Il y a eu 4 films. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme amateur de femmes et d'une étudiante vierge de 22 ans. Ça a été incroyable. Donc ça aussi, la pornographie n'est pas que dans les films porno. Ça peut être aussi dans les pubs, ça peut être dans les magazines, ça peut être dans les films classiques. Donc.
Avant d'être un film, c'était un livre, Fifty Shades of Grey. Et effectivement, c'est la banalisation de la soumission.
Oui,
c'est-à-dire que cette pornographie ultra-violente dont on parle, elle n'est pas seulement réservée aux hommes. C'est-à-dire que, quand je disais, ça colonise nos imaginaires. C'est-à-dire que nous, on est hommes et femmes, on est pris là-dedans et notre imaginaire sexuel, nos fantasmes, sont limités par ça.
Bien sûr.
Et on est tous à essayer de réinventer quand on peut nos fantasmes et notre sexualité. Mais la pornographie, c'est très, très, très puissant dans la façon dont ça nous construit.
De toute façon, la pornographie ne parle que de la sexualité de l'homme et jamais de celle de la femme, parce que la femme, elle est objet dans ces films. Elle partage pas un désir quelconque, elle ne désire pas. C'est l'homme qui désire.
C'est sûr, et encore une fois, c'est de la violence plus que de la sexualité.
Mais oui, c'est ça.
Mais... ça a un effet, d'abord parce que ça, des femmes regardent aussi la pornographie.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, ça imprègne tellement l'imaginaire des hommes que ça imprègne nos relations avec les hommes. Il y a un texte qui est très beau, c'est celui d'Agathe Charnay qui parle de ça, de ce que ça lui a fait à elle, la pornographie comme jeune femme, quand elle l'a découvert dans les années 2000. On peut pas dire que c'est juste le problème des hommes, c'est notre problème à tous.
Oui, parce que la jeunesse aussi s'imagine que la pornographie, c'est normal, que ça fait partie... Les femmes soumises, c'est normal, il faut qu'elles soient soumises pour que...
Par exemple, il y a une pratique qui est quasiment systématique aujourd'hui dans la pornographie, qui est des pénétrations buccales jusqu'à la nausée. Aucun être humain n'aime ça.
Non,
aucun être
personne.
Humain n'a du plaisir
non.
à subir ça.
Non. Oui.
Et donc, les jeunes garçons et les jeunes femmes qui font leur éducation avec la pornographie, puisque aujourd'hui, un garçon sur deux à 12 ans a déjà vu
des
films pornographiques où il y a ce genre de pratique, comment ils vont imaginer qu'il faut faire autrement, qu'on peut faire autrement, que c'est autre chose? C'est compliqué, hein?
Et comment ils vont respecter la femme aussi, parce qu'il y a ça.
Et
aussi.
Comment les femmes elles-mêmes vont se respecter.
Et comment les femmes vont se respecter. 19 millions de personnes consultent des sites pornographiques chaque mois en France. C'est beaucoup.
C'est énorme.
Donc,
on peut dire que tout le monde en regarde.
Ça veut dire que tout le monde en regarde, oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut supprimer le porno? Alors que ce n'est pas possible de supprimer le porno. Peut-être qu'on peut peut-être que les pouvoirs publics peuvent légiférer et encadrer les tournages, déjà. On peut commencer comme ça.
Allez, Géraud, elle a une jolie formule. Elle dit, c'est comme quand on parle de la pédocriminalité dans l'Église. Est-ce qu'on dit qu'il faudrait supprimer l'Église?
Voilà. Bonne question.
Il faudrait au moins supprimer la criminalité dans la pornographie.
C'est ça, donc ça c'est possible en tout cas.
Je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait qu'il y ait une volonté ferme et de plusieurs États pour le faire. Et même en France, même au niveau de la France, on pourrait au moins s'assurer de l'âge. Ce serait un minimum de l'âge des gens qui vont sur ce site.
Et du consentement aussi.
Et de la nature non criminelle des images qui sont présentées.
Mais là, il y a eu Sandrine Rousseau a fait une enquête donc pour le cinéma. Donc ça aussi, on a pensé, parce que là aussi, les actrices de cinéma se révoltent et posent des questions sur le comportement des acteurs et des metteurs en scène, souvent. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer là aussi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire dans les films dits de sexe, quoi. Parce que ça peut être sexuel sans être pornographique. Peut-être qu'on peut. Le vocabulaire peut changer aussi, peut-être.
Ou peut-être que la pornographie peut devenir sexuelle et non pas criminelle.
Oui, c'est ça.
Retrouver.
Enfin, on donne des idées comme ça, si jamais.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vous parlez de la commission qu'a dirigée Sandrine Rousseau sur le cinéma et l'audiovisuel. Il y a l'abbé Pierre, dont on sait désormais que le Vatican était au courant depuis les années 50 de ses problèmes de comportement et de sa criminalité, de sa dangerosité, sans qu'il se passe rien. Dans l'affaire qui me concerne, moi, de Patrick Poivre d'Arvor, TF1, savait aussi, il y avait eu... une plainte pour viol, et il y avait eu des perquisitions qu'ils ont cachées, qu'ils ont dissimulées. La question, c'est plutôt... Enfin, moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi on a donné du pouvoir à des hommes comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a fascinés dans leur violence et dans leur transgression? Ou est-ce qu'arrivés au pouvoir, ils sont devenus hors contrôle et se sont permis des choses que personne d'autre se permettait? C'est deux possibilités et c'est une vraie question.
Oui, c'est une vraie question, absolument. Donc, ces autrices dont vous êtes, vous avez participé, ce livre, en fait, parle des vies de ces jeunes femmes et vous avez fait un acte de sororité, en fait, toutes, les 15.
Absolument.
Et vous avez donné de votre temps et votre talent pour mettre en lumière ces femmes. Et donc, je conseille évidemment à nos auditeurs de vite aller dans une bonne librairie et de prendre ce livre avant le procès pour être informé. Et est-ce qu'il y a un événement que vous allez créer autour du livre avec toutes ces...
Alors d'abord, il faut savoir aussi que les bénéfices du livre, il y a les autrices et l'éditeur, le seuil, qui, toutes les bénéfices sont reversés à la Fondation des Femmes. Donc si vous l'achetez, en plus, vous les aidez. Et vous aidez des femmes à vous en sortir. Pour la sortie du livre, on a fait une lecture de certains textes. Certaines plaignantes ont participé à cette lecture. Et c'était particulièrement émouvant parce que à la fin, c'était au Métallo, il y avait 200 personnes. Et tout le monde s'est mis debout et a crié « Justice, justice !» quand on a fini de faire cette lecture. Et c'était très, très bouleversant.
J'ai envie de vous demander votre actualité aujourd'hui, parce que vous êtes une femme de médias, tout le monde sait. Et quel est votre projet? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ou qu'est-ce que vous avez comme avenir, comme envie,
J'ai plusieurs projets. Je fais une bande dessinée, un petit peu sur des thèmes qui sont pas très loin. Et je travaille sur un livre sur des enfants, des garçons, qu'on a mis dans des prisons absolument atroces à Paris au début du XXe siècle.
Ah, très bien. Donc, vous allez revenir nous voir pour nous montrer tout ça.
Si vous m'invitez.
Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, Madame de Vinck, vraiment, j'ai été excessivement honorée d'abord, parce que vous êtes un personnage, une femme que j'ai suivie aussi, parce que vous savez de quoi vous parlez, en fait, quand vous parlez de ce genre de situation. Pas extrême, malgré tout. Mais vous êtes une femme, donc vous avez été... but à des hommes pas très sympathiques, on va dire, comme beaucoup de femmes. Donc, je voulais vous remercier, en tout cas, et merci d'avoir écrit ce livre aussi, L'impunité, qui donne aussi aux femmes la possibilité de comprendre qu'il faut parler, parce que quelquefois, il faut oser parler. Ce n'est pas toujours facile, parce que le résultat n'est pas là, mais il faut quand même oser le faire. Donc, je voulais vous remercier. Je voudrais remercier aussi les auditeurs qui nous ont écoutés. Et je vais remercier Armand, qui nous a passé tous ses textes merveilleusement bien, Guri. Et je remercie effectivement les auditeurs. Si vous avez envie de réagir, n'oubliez pas que vous avez l'email desfemmes@aligrefm.org. Donc je serais ravie d'avoir votre opinion. Et puis nous allons écouter de la musique, pour nous faire du bien un petit peu, un peu de musique. Alors, vous avez, c'est vous qui avez fait le choix. Cette chanteuse, donc...
C'est une chanteuse qui s'appelle Naïka et qui chante My Body, My Choice. Et vous allez voir, c'est comme quoi le combat féministe peut être joyeux et puissant.
Oui, mais c'est joyeux. Les femmes, c'est toujours joyeux. Merci infiniment. The belief that you can do anything you want to a woman. My body, we really talking about my body. My body. What to do with my body? One time, rewind. Must have not heard this shit right. Mind your business, not mine. This is my body. Who are you? Hop off my back. Take your moves. I don't know you like that. All I know is I carry the world on my shoulders. And who are you? Tell me that. Oh, you don't know what you've done. Poking at a tiger. That's already provoked. No, chérie, no. You don't know what you've done. Disrespected her highness. One step in her tempo. My body. You really talking about my body? My body. What to do with my body? One time, rewind. Must have not heard this shit right. Mind your business, not mine. This is my body. Voilà, je pense que vous voulez nous dire un petit mot.
Ben, je voulais vous dire merci, Lydia Ketty. Merci à Aligre FM de faire de la place à ce livre. Et puis, merci à vous de faire, comme ça, deux fois par mois, de la place pour ces combats féministes si importants.
Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Tant qu'il y aura des femmes... Avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.